Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Christophe Garnier, le CEO et fondateur de Spark Labs. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Écoute, je m'appelle donc Christophe Garnier, je suis résident américain depuis bientôt 18 ans. Et donc ça fait donc un certain temps que je travaille dans les nouvelles technologies. Après avoir passé pas mal de temps sur le West Coast dans la Silicon Valley, ça fait une douzaine d'années que je monte des boîtes sur New York.
18 ans aux États-Unis. Donc c'est quoi ? C'est pas tout à fait encore la moitié de ta vie ?
Pas loin. Pas loin. Ça nous rajeunit pas cette histoire.
D'accord. Et pourquoi t'es venu aux États-Unis ?
Alors écoute, je suis venu aux États-Unis au départ parce que j'avais eu une expérience de travail à l'étranger dans le cadre de mon école de commerce où j'avais passé du temps à Londres, passé du temps en Espagne et quand je suis rentré à Paris, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? J'ai tellement appris de choses en étant à l'étranger, il faut que je me refasse une autre expérience. Et donc je me suis dit je vais aller passer 2-3 ans quelque part.
D'accord.
Et grâce à des amis qui avaient de la famille installée aux États-Unis, j'ai trouvé un stage pour une filiale de la BNP qui s'appelle la Bank of the West.
D'accord.
En Californie, à pas très loin de San Francisco. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas en 99, dans le cadre de ma dernière année d'études, en stage de fin d'année de mon école de commerce parisienne.
Et t'es jamais revenu ?
Et je suis jamais revenu. Je devais y passer 3 mois, j'y suis resté 6 ans.
Et alors ce qui est drôle, c'est que du coup, t'es arrivé dans la Silicon Valley pour un job dans la finance et pas du tout dans la tech.
Alors en fait, je suis arrivé en Californie, travaillant donc pour cette filiale de la BNP qui organisait l'équivalent de Roland Garros.
D'accord.
Un truc qu'on sait pas en France,
ouais.
C'est qu'il y a un équivalent de Roland Garros en Californie qui organisait tous les vents,
ouais,
par une filiale de la BNP.
D'accord.
Et donc moi j'ai été engagé pour coordonner ce tournoi.
Qu'un tournoi international.
Qu'un tournoi féminin.
D'accord.
De tennis. Avec des joueurs locaux.
D'accord. OK. Et du coup, tu débarques là-bas, tu fais tes 3 mois.
Je fais mes 3 mois là-bas en charge du marketing et de la communication et de la coordination de cet événement. Et à l'issue de ces 3 mois, j'ai aucune envie de rentrer en France et je commence à distribuer des CV à tous azimuts, à toutes les boîtes de com. Que je peux trouver, puisqu'à l'époque, je vais vraiment rentrer dans une agence de pub, c'est ce qui me plaisait.
Ouais.
Et ce qui est marrant, c'est qu'un type, m'envoie un email en me disant, écoute, viens me voir, j'ai peut-être un truc pour toi. Et je rencontre cet Américain, ultra francophile, qui parle français couramment, hyper sympa, qui me dit, écoute, je t'ai fait venir, non pas parce que j'ai un boulot pour toi, parce que j'en ai pas, mais je peux sûrement t'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, j'avais un gros problème de visa à l'époque, évidemment, parce que tu peux pas avoir de travail aux États-Unis sans avoir de papier. Et les mecs m'a fait un visa. Il m'a fait un visa, en me faisant un contrat de travail, un CDD. Donc, je l'aidais sur 2-3 trucs.
Oui.
Tout en cherchant un travail.
D'accord.
Et le mec l'a fait juste pour mon service.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Peter Terman.
C'est un pote, du coup, maintenant?
Je l'ai eu au téléphone il y a 3 semaines.
D'accord.
C'était il y a 18 ans.
D'accord.
C'est grâce à Peter, c'est Peter qui a changé ma vie quelque part.
C'est bon, ça.
C'est incroyable. Hein.
C'est une très bonne rencontre. Et
donc du coup, je sais pas, 2-3 mois plus tard, moi j'étais à mi-temps dans la boîte de Peter, dans sa petite agence de pub.
Oui.
Et j'avais rencontré, durant mon expérience Bank of the West, un groupe de Suisses super sympas de notre âge. Qui eux travaillaient tous pour une boîte qui à l'époque était suisse, qui est devenue une boîte américaine derrière, qui s'appelle Logitech.
D'accord, très bien.
Il fait des claviers, des souris, etc.
Je savais pas que c'était devenu américain.
Ouais, pour moi, c'était toujours suisse. C'est passé au Nasdaq et c'est devenu américain à ce moment-là.
Ok.
Et je suis rentré dans cette boîte. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider sur la partie contenu, marketing, etc. Ouais. Et comme je connaissais bien pas mal de membres de l'équipe de Logitech, ils m'ont fait rentrer là-dedans.
Folie Logitech à cette époque-là.
Grosse boîte, c'est 4000 personnes en plein milieu de la Silicon Valley. Je suis rentré dans une. Donc c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans la technologie et dans le cœur de la vallée, et j'ai passé 10-12 mois. Mais je me suis vite rendu compte que travailler pour une très grosse boîte comme ça, allait pas vraiment être un bon fit de mon côté. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait. J'ai commencé à exploiter un peu le réseau que j'avais tissé à l'époque.
Oui.
Et j'ai rencontré un Français qui était basé à San Francisco, qui était le CEO d'une boîte française qui s'appelait Mobileway.
Ouais.
Il était le seul basé à San Francisco. Il avait 80 personnes entre la France, l'Italie, l'Angleterre, Singapour, etc. Il était en train de créer une start-up dans le monde de la technologie mobile.
Ouais.
Et j'ai rencontré ce mec. On a passé 2 heures à discuter. Et le lendemain, il m'a fait signer un contrat. Et c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans la vraie start-up de la Silicon Valley.
Et donc là, vous étiez deux?
On était deux. Et il m'a dit, Christophe, c'est toi qui vas t'occuper des US maintenant.
D'accord, c'est bon.
J'avais 23 ans. Et je suis devenu responsable des États-Unis pour cette start-up qui était en croissance assez rapide pour l'époque. 2 mois plus tard, il a levé 40 millions. Et je me suis retrouvé à être... le petit jeune motivé responsable du développement du bureau américain, je reportais directement au CEO de la boîte qui était un Français, et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain avec un contrat dans l'avion avec le CEO qui m'expliquait alors voilà comment le business fonctionne.
C'est quand même fou parce que
complètement
on échange sur ce podcast avec pas mal de personnes qui se sont retrouvés dans la Silicon Valley à cette époque-là.
Ouais.
Et tu sens que, tu vois, Marc Fournier chez Serena Capital, plus récemment Clément Altresco, enfin, des tas de gens. Et en fait, tu te rends compte que il suffisait de traîner dans la rue quasiment, puis il y avait un mec qui te chopait, qui te disait, tiens, tu fais quoi, toi? Tu veux pas devenir? Et puis tu te retrouvais, mais c'était même plus parachuté, c'était l'inverse. C'était une ascension fulgurante.
Ah ouais, non, c'est extraordinaire. C'est vrai que, j'ai pas mal de copains aussi que j'ai rencontrés là-bas qui ont vécu des rencontres assez transformatives dans leur vie.
Et du coup, Mobileway, c'était quoi?
Et Mobileway, c'était un agrégateur SMS. C'est-à-dire que c'est la boîte qui, aujourd'hui, s'occupe de l'interopérabilité des opérateurs. Si tu veux envoyer un message SMS de SFR à Verizon, ça passe par eux.
D'accord.
C'est aujourd'hui, ils envoient des milliards de SMS tous les jours, toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une boîte qui a été rachetée. J'ai passé 4 ans là-bas et elle a été rachetée un demi-milliard par Sybase. Donc, grosse ascension parce que je suis arrivé, j'étais employé numéro 65 et quand je suis reparti, on était 600.
Ils t'ont filé des stocks?
Ils avaient des stocks, heureusement. Et donc la boîte a été rachetée un demi-milliard par Sybase et derrière Sybase a été rachetée par SAP.
D'accord.
Donc moi j'ai passé 4 ans là-bas où j'ai appris évidemment énormément de choses puisque quand t'es premier employé et que y a tout à faire sur un nouveau marché, il a fallu adapter le produit qui était un produit européen sur le marché américain.
D'accord.
Il a fallu closer les deals avec les opérateurs et ensuite...
Toi tu closais des deals avec les opérateurs?
Avec les opérateurs mobiles. Ouais.
Genre tu t'allais voir comme
j'allais
ça à Verizon,
en leur disant bon voilà vous avez besoin de nous.
Salut,
parce
je m'appelle Christophe, j'ai 23 ans.
Il y a 10 millions de teenagers qui veulent se downloader des sonneries et vous avez besoin de nous pour le faire.
Très bon.
Ouais, c'était. Mais bon, on avait une offre qui était extrêmement extrêmement robuste.
Et du coup 4 années chez Mobileway.
4 années chez Mobileway et au bout de la 4e année, je commence à m'essouffler un petit peu. Et là, un de mes meilleurs clients vient me voir en me disant Christophe.
Et Mobileway était déjà revendu?
Mobileway n'était pas encore revendu.
D'accord.
Non, pas encore revendu. Moi, j'avais vesté la quasi-totalité de mes stocks.
D'accord.
Mais du coup, un de mes plus gros clients.
Je précise, vesté, ça veut dire que quand on l'a déjà dit, je crois, dans d'autres podcasts, mais quand on veste pas des stocks, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les vendre et que d'ailleurs, si on part, on les perd.
Exactement.
Donc, on va te dire, tiens, je te donne des actions, mais tu les as au fur et à mesure des années qui suivent, des mois en fonction, et au bout de 4-5 ans, généralement, tu as vesté tous tes stocks. Ok.
Exactement. Et donc, du coup, Un de mes clients vient me voir en me disant, écoute, comme tu le sais, on est basé à Londres. Donc, le client était basé à Londres. On a besoin d'ouvrir un bureau US. On veut s'installer à San Francisco. On a besoin de quelqu'un qui connaît bien le marché.
Une fois de plus.
Voilà. Rebelote. Même chose. Opération, connexion avec les opérateurs mobiles, ouais. Les clients, etc. Là, pour le coup, c'était une boîte anglaise qui s'appelait N-Pocket, qui était une sorte de double click du mobile.
Ouais.
Un mobile advertising server technology. Et je suis resté là-bas 2 ans. J'ai fait plus ou moins la même chose.
D'accord.
En ouvrant le bureau américain. En collectant les opérations, les connexions avec les opérateurs et en m'occupant de la partie business dev.
Donc des expériences entrepreneuriales, mais dans la boîte.
Dans la boîte. Enfin, c'était assez extraordinaire. Ouais, à chaque fois, reportant directement au CEO avec la capacité d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le tas.
Oui.
Mais d'avoir effectivement pas mal de liberté et pas mal de visibilité sur différents aspects du business.
Et du coup, là, quand tu es à San Francisco, comme ça, tu bosses comme un ouf. Comment ça se passe? Parce que les Américains, ils bossent pas toujours. Enfin, c'est quoi les rythmes? C'est quoi? Parce que quand tu crées ces choses-là, faut quand même être au taquet, quoi.
J'imagine. Bah, écoute, en fait, quand tu travailles pour une boîte européenne qui vient se développer à San Francisco, déjà, tu bosses tôt.
Ouais.
Parce qu'il faut pouvoir travailler
à 8h
avec l'équipe. Avec l'équipe en Europe. Et à partir de midi ou une heure, c'est fini. Ils sont partis. Et donc, il y a une grosse partie coordination avec la maison mère qui est extrêmement importante, avec les équipes produits et les équipes techniques qui sont donc basées en Europe. Surtout au début, t'as pas encore de techos, t'as pas encore de product guy, t'es obligé de tout gérer. Donc, tu bosses relativement tôt. Mais effectivement, en Californie, les horaires sont plus cool. Donc, à partir de 17h, 18h, il n'y a plus grand monde dans les bureaux.
D'accord.
Donc, tu as quand même la possibilité de pouvoir profiter du reste. Donc, tu es en Californie, il y a des vagues, il y a la plage, il y a du surf, il y a plein de trucs à faire et qui rendent ta vie assez sympa.
J'ai cru voir, en effet, parce que je n'ai pas précisé, mais qu'on est bien chez toi, chez Spark Labs, donc dans ton premier, on y viendra tout à l'heure, mais bureau à New York, et j'ai vu une planche de surf, je crois, quelque part. un vestige du passé.
Oui, c'est ça, d'accord. Exactement. Celle-là, elle est trop petite, je ne m'en sers plus.
et d'accord. Et donc, N-Pocket rebelote, hein, grosse revente.
MobileWeb a été racheté 1 milliard par Sybase, et pour le coup, N-Pocket a été racheté par Nokia, pas loin de 200 millions.
D'accord. Donc, en effet, t'étais une sorte de... Quand on bosse avec Christophe Garnier, t'es pas un chat noir, quoi, en tout cas.
Non, mais j'étais... Enfin, c'était des super expériences et j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de stock là-dedans. Mais tu vois, j'étais un petit employé et j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de sous. Mais ça m'a pas rendu millionnaire.
D'accord. Mais quand même, j'imagine que dans des boîtes comme ça, le fait de, en particulier MobileWay, mais probablement N-Pocket aussi, le fait d'être implanté aux États-Unis, ce qui est le travail que t'as réalisé à chaque fois. Mm-hmm. Ça donne quand même une belle partie de la valeur. Je veux dire, racheter une boîte comme ça qui n'est pas aux États-Unis, généralement, elle va valoir le quart de ce qu'elle vaut quand elle est worldwide, non ?
Bah oui, évidemment. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dès qu'une boîte commence à atteindre un certain niveau en Europe, je pense qu'elles ont pour beaucoup l'ambition de vouloir venir aux États-Unis.
Voir de plus en plus, je me rends compte, une des choses très intéressantes que j'ai pu tirer des deux trois derniers épisodes avec notamment Alice Zaguri et Thibaut Elzière, c'est qu'ils te disent en fait on lance direct à San Francisco, quoi. C'est-à-dire faut partir, en tout cas il faut tout de suite un marché global, parce que partir sur un marché français c'est trop petit, ou un marché européen c'est trop petit, il faut voir tout de suite très grand, quoi.
Bah écoute, je serais assez d'accord, mais ça dépend aussi des moyens de la boîte. C'est-à-dire que ça peut être aussi très très casse-gueule de vouloir tout faire en même temps. Aujourd'hui, on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est ce que fait Spark Labs. Nous, on a aidé plus de 250 boîtes de tech étrangères à venir aux États-Unis.
Ouais.
Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui font justement l'erreur de vouloir venir trop tôt sans avoir les moyens.
Ouais.
Et c'est vrai qu'aux États-Unis, si t'as pas les moyens, tu te fais vite, ça peut être très dangereux.
Ouais.
Assez rapidement.
Parce que ça coûte cher, déjà.
Ça coûte très cher.
C'est un gros marché.
Ça coûte très cher, et puis ça marche très compétitif, et puis à partir du moment où t'as un bon produit, tu peux être sûr que tu peux être copycat très rapidement.
Ouais.
Donc il faut avoir les bonnes armes de manière à pouvoir se défendre sur ce territoire.
D'accord. En effet, on viendra. C'est un point que je voudrais vraiment aborder tout à l'heure. C'est justement, ton expertise et ta vision d'un business qui vient aux États-Unis. Ensuite, tu lances ton premier business ou pas encore?
Alors ensuite, ouais, c'est ça. Je quitte Ten Pocket après quasi 2 ans avec cette boîte et je lance un business. Je lève très peu de fonds.
Tu traverses les États-Unis à ce moment-là, non?
Ouais, je traverse les États-Unis pour me rapprocher de deux choses. Un investisseur qui est basé à New York et avec qui je travaille. C'est mon client depuis X temps.
Ouais.
Mais c'est aussi, ça devient donc mon investisseur. Et parce que le premier concept que je monte, c'est une boîte de marketing mobile et qui donc crée des campagnes de marketing par SMS. Et par définition, nos clients sont à New York.
D'accord, oui, parce que
les clients sont les agences de pub et les marques.
Donc en revanche, tu n'as pas de réseau à New York.
Pardon ?
T'as pas trop de réseau à New York.
Non, je connais vraiment personne.
Donc c'est quand même un nouveau départ, quoi.
Nouveau départ. J'avais vraiment envie de me rapprocher de l'Europe pour le coup. J'avais envie de me rapprocher de ma famille. J'avais envie de me rapprocher de mes amis. Ça m'allait très très bien de voir que mon marché était ici, que les clients étaient là. Et donc je lance un premier business.
Donc tu découvres New York après 6 ans aux États-Unis, quoi.
Après 6 ans à SF, je découvre New York. Okay. J'étais déjà venu peut-être, tu vois, 2-3 fois en business, mais je connais très très mal la ville. J'ai peu de réseau ici, mais j'arrive tout excité.
Ok. Pas de clients, pas d'argent, enfin un peu d'argent de côté sur tes différents trucs, mais voilà. Donc ouais.
Donc voilà, un petit peu d'argent de côté. Je lance ça tout seul, ouais.
Ouais.
Je lance ça tout seul. Je lance une technologie de data mining et de management de bases de données.
D'accord.
Qui permet de pouvoir récupérer les bases de données de téléphones mobiles à des fournisseurs de contenu.
Ok.
Et de les monétiser après les avoir enrichis grâce à des partenaires de data.
Okay.
Comme Axiom, Claritas, Experian, qui sont des grosses boîtes de data storage aux États-Unis,
okay.
qui me permettent d'enrichir mes bases de données, de pouvoir les monétiser ensuite en les vendant à des agences de pub et à des marques directement pour que eux puissent envoyer un SMS ultra ciblé à
quelqu'un qui est passé
un
sur...
teenager qui écoute du hip-hop,
d'accord,
par exemple.
Voilà. Tu vois. À force voilà, de les
avec un coupon qui est avec un SMS qui lui permet de downloader la dernière sonnerie de Def Jam.
D'accord.
Voilà. Par exemple, c'était le genre de truc qu'on faisait. Donc, je fais ça pendant 3-4 ans.
D'accord.
On vend ça très, très cher. On est une des seules agences à faire ça à New York.
Ça grossit. Vous êtes. Comment c'est quoi ton premier client?
D'abord, j'ai des petites marques en individuel. Après, je commence à travailler avec des agences qui, du coup, m'agrègent différentes marques, etc. Ça reste un petit business. Je suis pas. À l'époque, j'ai pas cette expertise de levée de fonds. Je suis très très content d'avoir ma petite agence à New York, à Soho. J'ai une douzaine de personnes qui travaillent
quand
pour
même.
Moi, voilà.
Donc c'est monté vite.
Donc petite, ouais. Au bout d'un an et demi, tu vois, on est peut-être une douzaine de personnes. Et puis on va plafonner là parce que arrivera la crise en 2008.
Ouais.
Et comme on vend des produits très chers, on vend à $160 CPM.
Ouais.
Des énorme. Campagnes SMS. Arrivera la crise et donc en période de crise, les marques ont tendance à quand même éliminer tout ce qui est marketing qui est coûteux avec un ROI qui était relativement qui n'arrivait pas à équilibre au final. C'était vraiment du marketing très innovateur pour les marques.
Ouais.
C'était des tests beaucoup. On était un peu trop en avance sur le marché.
Avec en parallèle aussi le SMS qui peut-être comme il déclinait pas encore
ça arrive justement bien sûr c'est ce que j'allais dire c'est que les smartphones commencent à arriver et on savait qu'on aurait une transition très très difficile donc au final après 3 ans et demi je plie la boîte.
Plier, c'est-à-dire tu la fermes
plie. Je la ferme.
D'accord.
Je plie la boîte.
Sans perte, c'est pas le cas.
Pardon ?
Tu sens grosse perte.
Non, sans grosse perte, parce que la boîte faisait de l'argent donc au final je redistribue on était sur la dernière année, il n'y avait pas grand-chose à redistribuer. Mais en tout cas, on en a bien vécu pendant 3 ans et demi.
Oui.
Et du coup, je me retourne et je m'associe avec mon pote Guillaume Gautreau qui, lui, était...
Qui nous a présenté, mais juste parce que... Revenons sur ce moment. Tu plies cette boîte. Comment tu prends la décision? Enfin, moi, j'ai généralement, c'est quand même pas facile.
Mais
t'avais le choix.
Oui, j'avais le choix de continuer et de continuer peut-être sur un marché qui n'avait, enfin, quoi qu'il arrive, il n'avait plus de croissance.
Ouais. Ouais.
Il y avait plus de perspective de croissance sur ce que je faisais. Il aurait fallu que je renouvelle la boîte. que je la réinvente sur des nouveaux médias, puisque le SMS sombrait et les smartphones commençaient à prendre le dessus.
Oui.
Alors que on était en période de crise.
Oui.
Et que quoi qu'il arrive, ça allait être très très difficile en mode de vente. Donc disons que toutes les planètes ne sont plus alignées du tout. Ça devient de l'acharnement, tu vois.
Et du coup,
je prends la décision de fermer.
Avant d'avoir l'idée de Toti, avant de rencontrer Guillaume,
Oui, avant.
Donc tu te dis je ferme sans savoir ce que tu vas faire derrière.
Je ferme. J'avais un peu de sous de côté.
Ouais.
Et j'avais 2-3 boîtes que j'aidais à faire de l'acquisition d'utilisateurs, donc je fais un peu de consulting.
D'accord.
Et je cherche mon prochain
truc. C'est la traditionnelle. Tu fermes une boîte ou tu changes un truc, tu fais du conseil. Ça, c'est le truc des entrepreneurs. Conseil. Ouais.
Et je cherche mon prochain truc, puisque voilà, une fois que t'as commencé à créer des boîtes, c'est quand même assez difficile d'aller bosser chez les autres. Et donc ça faisait quand même des mois que Guillaume et moi on se court autour en disant lui travaillait, était CEO de la Leak, qui est donc une grosse boîte de retail.
Alors c'est pour l'histoire, c'est comme ça que nous on s'est connus, parce que moi
j'ai rencontré
j'ai rencontré Guillaume moi à Londres, qui était quand j'habitais là-bas, qui était le CEO de la Leak UK,
voilà,
et qui a eu un très beau parcours. Et Guillaume, je voudrais l'inviter parce que il fait quand même des trucs de fou.
Complètement switché en plus. C'est hyper intéressant de faire une interview de son
parcours. Il est passé de vétérinaire à chaman en passant par start-upper. Donc, c'est quand même... on va bien se marrer. Mais c'est vraiment un type hors du commun, finalement.
Ouais.
Et donc, toi, tu l'as rencontré chez la Leak, c'est un des clients.
Et alors, je l'ai rencontré à travers des amis communs ici à New York.
Réseau de
Français. On est devenus super potes.
D'accord.
On est allé à Burning Man ensemble. On a fait pas mal de trucs.
Burning Man en quelle année?
On a fait Burning Man en 2008.
Ah, fantastique.
Ouais, c'était extra. Et donc, on revient. On se dit, bon, allez, on monte un truc. Et il a un copain, lui, qui s'appelle Rémi Debran. Qui est un...
Je suis en train de rêver de Burning Man là, et je me dis qu'on va revenir sur cet épisode.
On va revenir là. c'est un peu trouble quand même, les souvenirs. Guillaume a un ami qui s'appelle Rémi Debran, qui est basé en France,
ouais,
et qui lui vient nous apporter une idée.
D'accord.
Lui vient avec une idée. Son idée, c'est la crise aux États-Unis.
Mmh. On est en
la vente privée 2008. En Europe.
Comment ? 2008 ?
2008, ouais. C'est la crise... 2009.
2009.
C'est la crise aux États-Unis, c'est la crise en Europe. Depuis que c'est la crise, vente privée cartonne encore plus. Il faut lancer un site de vente privée aux États-Unis. Voilà à quoi je pense. Et il nous sort un plan de création de site de vente privée pour le marché américain, focus sur la famille. Et on commence, on dit à Rémi, écoute, on va regarder le marché, et on revient vers toi. Et on a regardé ça en détail avec Guillaume, et on se rend compte qu'il y a un marché gigantesque. Le marché de la famille aux États-Unis, c'est un marché de 65 milliards de dollars,
ouais,
avec 4,5 millions de naissances par an, avec une viralité des mamans sur le web incroyable aux US.
Ouais, toujours partout. Hein.
Et donc, du coup, on se lance là-dessus. Maman, ouais. On se lance là-dessus.
Et pourquoi ? Pourquoi sur un vertical ? Pourquoi pas faire comme vente privée, se dire je fais une vente.
Le marché est trop gros. Déjà, et aux États-Unis, t'as pas un seul vente privée. Ça n'existe pas.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Tous les sites de vente privée qui existent sur le marché américain sont tous verticalisés. Donc, t'en as 2-3 sur le voyage, t'en as 2-3 sur le sport, t'en as 2-3 sur le luxe et les accessoires de luxe, etc.
D'accord.
Toute la partie fringues, retail. Et donc, il y en avait deux sur la famille. On était un des deux sur le segment de la
famille. Et il y en avait déjà quand vous avez commencé d'autres?
Non, on a lancé en même temps, à un mois d'intervalle.
D'accord. Et il n'y en avait pas d'autres dans la vente privée, il n'y avait personne, quoi, dans l'absolu.
Il y avait sur des verticaux.
D'accord.
Il y avait d'autres verticaux.
D'accord.
Il y avait déjà un site sur le voyage, 3 ou 4 sur les fringues et les accessoires.
D'accord. OK.
Et ensuite, il y en a beaucoup d'autres qui se seront lancés derrière.
Donc là, on passe à une des grandes aventures de ta vie entrepreneuriale.
Là, ça a été incroyable.
La montagne russe, Totsy, donc c'était T-O-T-S-Y.
Voilà, on lance Totsy.com.
Ouais, très beau nom, très beau design, super, moi. Je suis toujours admiratif de ce que vous avez fait avec Totsy. C'était vraiment l'énorme succès. Et puis
Et puis une, une histoire horrible derrière.
Alors du coup, alors, raconte-nous. Vous lancez votre site en 2009-2010.
On lance un site en 2009. On lève $1,5 million sur une presse.
Ouais.
Pas mal d'investisseurs.
Genre une
français.
Presse. Quand tu dis t'as la presse PowerPoint, mais tu vas voir 10 personnes ou t'envoies.
Écoute, entre Guillaume, moi et Rémi, qui quand même est là en support, parce que c'est nous qui opérons le business avec Guillaume. Guillaume, fort de son expérience de retail, de tout ce qui est logistique, de relations avec les marques. Donc lui, il s'occupe de toute cette partie-là.
Ouais.
Et moi, je m'occupe de toute la partie produit, le site, la gestion des devs et la partie marketing, l'acquisition d'utilisateurs.
Et vous trouvez. Et
donc, on trouve 500K sur une presse en allant voir une trentaine d'investisseurs.
D'accord.
30 ou 40 investisseurs, on en fait rentrer 15. Et puis, en fait, pas mal d'investisseurs qui se disent effectivement, modèle de vente privée intéressant.
Oui.
Très peu de sites de vente privée aux États-Unis. On est français, on connaît le modèle, on y va. Et des investisseurs américains qui se disent super intéressant, on connaît vente privée. Parce qu'on en a entendu parler et effectivement, le marché du discount, c'est la crise, c'est la récession, on y va. Donc, on se fait moitié investisseur français, moitié investisseur américain.
Du coup, avec tout ça, ils mettent 10-15K et voilà, chacun.
Bon, voilà, et on a c'est ça aussi entre 200K et 20K. Tu vois.
D'accord.
Et donc, on met notre round, on lève assez vite, genre en 45-60 jours, c'est bouclé.
Ok.
Et on lance le site. On lance les devs, on 3 mois de dev, on lance le site.
Trois mois,
d'un
c'est
an,
rapide.
Ouais, on a été hyper vite. Et au bout d'un an, 12 mois d'exécution, le site fait $2 million de chiffre d'affaires. Première année.
Boum. Boum.
Et donc là-dessus, on a 3 fonds américains qui rentrent dans le capital de
donc
la boîte.
2 millions sur un chiffre comme ça, c'est quand tu fais 2 millions de CA, tu fais combien de marge brute?
Écoute, c'est des business à petite marge. Hein.
Ouais.
On est à 14%.
D'accord.
On est à 14%, mais... on lève sur le top line, donc là-dessus...
280 000, ouais, bon, ouais, ok.
Et donc là, du coup, on lève 4 millions chez des viciers donc américains, trois viciers américains, et 12 mois plus tard, avec grâce à ces 4 millions, 30 millions de chiffre d'affaires.
30 millions de CA.
Fin de deuxième année, on est sur 30 millions de CA.
Donc,
On a 170 employés.
Fois 15.
Ouais, fois 15. 170 employés.
Mais comment tu recrutes 170 employés en un an?
Franchement.
C'est pareil, tu prends les Français qui sont là, les gens dans la rue.
Je me souviens plus comment on a fait tellement c'était complètement dingue. On connaissait tout le monde. Jusqu'à 40, on voulait vraiment plus connaître nos employés. On était hyper attachés à notre culture d'entreprise. On avait une équipe extraordinaire. Je me souviens au début, on était 6 ou 7 dans ce petit bureau avec Guillaume. Et c'est très, très important pour nous de créer une culture, d'entreprise. Et un côté humain hyper fort, donc on organisait beaucoup de choses pour notre équipe.
Parce que je le redis, hein, 170, alors je sais pas si t'en as peut-être, même si t'en recrutes 100 en un an, parce que t'en avais peut-être quelques-uns avant, mais c'était plutôt à mon avis 120-130, ça fait quand même un tous les deux jours. Je veux dire, recruter une personne tous les deux jours, faut quand même être sacré.
On a engagé aussi
des
RH et on a engagé effectivement, on a racheté une boîte, donc on a fait rentrer 20 personnes d'un coup, etc., etc. Il s'est passé pas mal de choses.
Okay.
Et du coup, on avait 3 millions, 4 millions de mamans sur le site. Enfin, c'est allé très très vite.
Et c'est quand même drôle parce que vous êtes deux mecs célibataires, je crois en plus à l'époque.
Ouais.
Oui. Et vous montez un site pour les mamans, quoi.
C'est vrai que c'était assez marrant. C'était assez marrant, surtout qu'on était invité à pas mal de conférences. Ouais. Deux Frenchies qui montent un site pour les mamans aux États-Unis, c'était un peu bizarre.
Et l'expédition, vous la faites vous-même?
Et l'expédition, on la sous-traite à un centre logistique basé dans le New Jersey.
Mais donc d'accord, ce centre logistique qui reçoit les produits de vos clients,
des marques
et il les dispatche.
Et les dispatche derrière aux clients.
Dans tous
les États-Unis.
D'accord.
Et le Canada.
Donc envoyé assez rapidement aussi.
Tout ça prenait 2-3 jours, ça dépendait. Il me semble que Guillaume se souviendra mieux que ça, mais il me semble que à partir de la deuxième Oui, début de la deuxième année, on a commencé à avoir un autre shipping center au milieu des États-Unis de manière à mieux distribuer West Coast.
Mais parce que ça, c'est pareil, c'est un sacré bordel. C'est-à-dire que
avec la taille du pays,
c'est expédié 30 millions de dollars de.
On avait 20 000, on faisait 20 000 paquets, 25 000 ordres par mois.
25 000 commandes par mois, ouais.
C'était complètement dingue.
Mais donc là, on arrive à deuxième année. Donc
voilà, deuxième année, et là.
De gros lavage de cerveau, de tout. Dingue. Vous arrivez, vous êtes cramé, vous prenez vacances.
Non, on n'est pas encore cramé.
Vous êtes en ébullition.
On est plutôt en ébullition.
Ouais.
On n'est pas encore cramé, on est plutôt motivé. Et là, on reçoit un coup de fil de Groupon.
Groupon.
Voilà. Voilà. Le gros géant basé à Chicago. Qui nous dit, le gros géant du discount aux États-Unis à l'époque, et qui nous dit, écoutez les gars, on a entendu parler de vous, nous on vend que du service, on vend des coupons de réduction, c'est notre business, on vend pas de produits, on veut vendre du produit, mais on veut pas tout refaire, on veut racheter quelqu'un qui sait vendre du produit et qui a quelque part une ADN proche de la nôtre dans la cible de nos clients.
Ok.
Puisque Groupon a toujours été très focus sur la ménagère.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
C'est la décideuse de tous les achats pour la maison.
Et bien plus encore, c'est la décideuse.
Bien plus encore, exactement. Et donc, du coup, ils sont très intéressés non seulement par notre expertise, notre organisation logistique, notre sourcing et donc les relations que nous avons avec les marques dans le secteur de la famille et effectivement notre base de données. Donc, du coup. De fil en aiguille, ils nous offrent près de 100 millions de dollars pour acheter la boîte. On est en année 2.
Vous avez levé...
On a levé 4 millions plus les 500K du début, plus un peu de dette chez Silicon Valley Bank. On devait être à 7 ou 8. Donc, d'accord. On est à 7 ou 8 et on nous offre près de 100.
Là, tu te dis, ça y est...
Bon, on se regarde avec Guillaume, on se dit, c'est pas possible, il faut y aller.
Ouais.
On se dit pas ça tout de suite. On se dit qu'est-ce qu'on fait?
Parce que le problème, c'est que
quand même un peu tôt.
C'est ça.
Mais en même temps, on savait que notre concurrent principal, et c'est là que ça devient plus difficile pour nous de prendre la décision de ne pas vendre, c'est que notre concurrent principal lève beaucoup plus d'argent que nous. Ils avaient déjà levé plus de 10 millions. Nous, on en a levé 4.
Ouais.
Les fondateurs de la boîte concurrente.
Ce qui, 4, je le dis, c'est énorme, mais aux États-Unis, c'est que dalle.
C'était pas grand-chose.
C'est-à-dire qu'en France, quand tu lèves 4, l'équivalent de 4, en France, c'est pas mal,
ça commence à être petit maintenant, 4, quand tu vois des boîtes comme Compton Square qui viennent de lever 42.
C'est ça.
Etc. Donc nous, on est quand même assez inquiets par rapport à ça.
Pardon, tu te souviens à peu près combien tu dépenses à ce moment-là? Par mois, ou par an, mais par mois, je sais pas, c'est quoi, parce que vous cramez beaucoup d'argent.
Ah, écoute, on a 170 employés, je me souviens, il me semble qu'on dépensait rien qu'en salaire, pas loin $1,5 million de dollars.
Par mois.
Mais bon, on avait beaucoup de chiffre d'affaires.
Ouais.
On faisait rentrer pas loin de 2,5 million, 2,7 million, 2,8 million par mois. Mais bon, sur 2,7 million, 2,8 million, on était à, on était à 400, 500K en net.
Ouais,
tu vois,
ouais.
Donc ça veut dire qu'il fallait,
vous dépensez un million par mois, presque. Enfin,
donc sans compter le marketing, etc. Donc quoi qu'il arrive, il fallait relever. On était obligé de relever. Donc c'était soit on relève, soit on vend.
Ouais.
Et donc nous on voulait vendre. Au final, on se dit il faut vendre. Donc on présente l'opportunité aux investisseurs, et nos investisseurs en fait nous disent mais c'est hors de question, on veut pas vendre moins de 150 ou 200 millions, votre boîte elle est en croissance fulgurante, on n'a jamais vu ça. Évidemment Groupon dit t'es gentil, 150-200 millions, faut vous rêver.
Ouais.
Et du coup les investisseurs utilisent leur droit de veto, ils avaient un droit de veto. Ça, c'est une des grosses erreurs, une des grosses leçons qu'on a prises. Plus jamais de droit de veto dans un contrat, dans un pacte d'actionnaires.
Donc, on s'en souvient pour tout le monde. Hein. Voilà.
Et donc, ils nous empêchent de vendre la boîte. Tout simplement.
Donc là, c'est la tu ressens.
Alors là, c'est un peu le clash au board meeting. C'est un peu le clash au board meeting. On commence à véritablement sentir une tension entre
les investisseurs et nous. T'as combien de la boîte, toi, à ce moment-là, par exemple?
On a chacun 15% de la boîte à ce moment-là.
Donc toi, t'as un chèque-cause de 15 millions potentiel. Et on te dit, en fait, non.
Voilà. Mais bon. Donc, du coup...
C'est un peu chiant.
Oui, c'est un peu chiant, ouais. Mais bon, et à partir de ce moment-là, ça va commencer à partir en vrille avec les investisseurs. Il va se passer pas mal de choses. Et pour faire, parce que l'histoire peut être très très longue, on va pas y passer non plus.
On ne peut pas faire tout le call là-dessus.
Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que on va être obligé donc de continuer. On va être obligé de lever plus de fonds parce que quoi qu'il arrive, sinon la boîte est morte.
Ouais.
Donc on lève. Plus de 35 millions de dollars de plus.
Folie.
Folie. Complètement dingue. On lève 35 millions de dollars de plus.
Mais alors, c'est fou parce que...
Et pendant ce temps-là, attention, pendant ce temps-là, notre concurrent lève 400. Notre concurrent lève 400, une valo d'un milliard et demi ou plus. Et nous fait ce qu'on appelle une lockout strategy, c'est-à-dire qu'ils achètent tous les produits de manière à être sûr qu'on puisse plus avoir de produits sur notre site.
Sachant que tu as quelques marques, j'imagine.
Il y a des marques clés de toute manière. Ouais. Si tu les as pas, après, tes utilisateurs te lâchent.
Ouais, c'est, enfin, je sais pas, ça va être.
T'as que des marques de merde, ça y est, ouais, tu deviens le site.
C'est McLaren ou je sais pas, enfin, voilà. Ici, c'est peut-être d'autres, mais
voilà,
d'accord.
Exactement. Et donc, gros feu sur la partie inventaire. Ouais. Guillaume est furieux, évidemment. Et de mon côté, sur la partie marketing, pareil, lockout stratégie un peu similaire. Ils s'amusent à aller chercher tous les utilisateurs qui convertissent le mieux, parce que tu as toujours des sources d'utilisateurs qui répondent mieux que d'autres. Et donc, du coup, ils font flamber les coûts d'acquisition
quand il a levé 10 fois plus que toi, voilà. il peut dire « je vais te cramer ».
Exact. Et ils nous ont cramé. Ils nous ont lockout. Ils nous ont tués petit à petit. Au final, on a revendu la boîte 15 millions. Après avoir levé 42 au total.
D'accord. Oui, donc là, il vous restait plus grand chose, du coup.
Voilà. Voilà. En plus, on s'était fait cram down. Et, alors qu'on aurait pu la vendre, pas loin de 100 millions quand on avait levé 7. Bon, voilà. Donc, grosse leçon, Totti, au final. Énorme expérience sur 3 ans.
Déchirade. Mais du coup, tu sors quand?
Moi, je me fais, en plus, ils considèrent que comme les metrics deviennent de plus en plus mauvais, d'abord, moi, ils me virent. Voilà, donc je me fais ce qu'on appelle laid off.
D'accord.
Donc je me fais sortir de ma boîte.
Par tes investisseurs.
Mes investisseurs. Donc Guillaume pris en porte-à-faux en plus parce que c'est lui qui doit me virer.
Ouais.
Donc là, on a eu un petit clash à un moment qui durera pas super longtemps. Mais donc du coup, moi, je me fais sortir. 3 mois après, ils le sortent lui aussi.
Mais quand tu te fais sortir de ta boîte.
Ah bah tu peux rien faire.
Non mais je suis d'accord, mais tu vis quoi? C'est quoi dans ta tête? T'es au bout de ta vie?
Il y a différentes manières de le vivre, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que tu peux rester chez toi enfermé,
ouais,
à rien foutre. Tu peux aller faire le tour du monde pour essayer d'oublier.
Ouais.
Ce qu'a fait Guillaume.
Ouais.
Et où tu peux relancer un truc tout de suite.
Ce que t'as fait toi.
Ce que j'ai fait moi. Voilà.
Et quand on te vire comme ça de ta boîte, t'as pas des trucs du genre bad liver, good liver, des choses un peu où tu gagnes un peu des
bien
choses
sûr,
au passage
sûr,
quand
bien
même
sûr, bien sûr, mais ils étaient très très bien équipés au niveau légal, ils avaient beaucoup plus d'argent que moi à dépenser.
D'accord.
Au niveau légal, c'est pas la... Enfin, à un certain moment, soit t'as véritablement quelque chose à gagner, mais au-delà de le faire de manière à pouvoir te venger,
ouais,
ou juste par honneur. À un moment donné, il faut être aussi réaliste que sur ce qui est réalisable. Et moi, de mon côté, évidemment, j'avais pas envie de dépenser 50 000 ou 100 000 dollars de frais d'avocat,
ouais,
pour récupérer 200 ou 300 cas, tu vois. C'est pas possible.
Et du
coup, j'ai récupéré un chèque, je suis parti.
Et du coup, ils t'ont racheté toutes tes actions.
Guillaume, pareil.
Ils te rachètent tes actions à ce moment-là ou tu restes actionnaire?
Et non, j'ai gardé mes actions.
D'accord. Donc mes actions, tu sors avec un ticket quand même de Totti.
Je sors avec un ticket, je garde mes actions.
Ouais.
3 mois plus tard, Guillaume, pareil, ils mettent une autre CEO,
ouais,
qui fera n'importe quoi,
ouais,
et qui va démonter notre boîte. En 6 mois, elle fermera la boîte.
Et vous venez à des boards encore et tout après, vous deux?
Pardon?
Vous êtes encore au board après, quand même?
Ah bah non, c'est fini ça.
Ah, donc
quand
vous
t'es
êtes
sorti de la boîte, toi t'es juste
actionnaire
et tu t'assois dans le coin là-bas, tu fermes ta gueule. Allez, c'est fini.
Et là, c'est on parle de combien de temps, alors, du coup, entre le jour où vous créez la boîte et le jour où toi, tu sors, par exemple ?
Moins de 3 ans.
C'est fou.
Dingue. Moins de 3 ans.
Et t'as 30 piges à ce moment-là, à peu près, quoi.
Et quoi ?
T'as 30 ans à ce moment-là.
Et à ce moment-là, c'est 2012, donc c'était il y a 5 ans, donc j'ai 36 ans.
Et tu prends un espèce de...
Ah, je me prends une énorme baffe dans la gueule, mais en même temps, je me dis, il faut que je me relève tout de suite, sinon je vais...
C'est ça qui est fou.
Ouais. Mais après, ça dépend de ton tempérament. Enfin, moi, j'ai toujours été beaucoup... j'ai toujours eu le regard porté vers le futur plutôt que de regarder derrière moi. Donc
tu essaies de pas digérer le truc et de passer tout de suite à autre chose.
Je passe tout de suite à autre chose.
Et ça tu l'as digéré, hein. T'as pris un backlash, t'as pris un truc après, plus tard, t'as repris un contre-coup, jamais?
Non, j'ai jamais pris de contre-coup, mais si c'était à refaire,
ouais,
je le ferais différemment. Parce que je pense que j'ai malheureusement pas pris le temps, justement, de me regrouper, de réfléchir, de passer du temps pour moi, etc.
Ouais.
En tout cas, pas assez, tu vois, je suis parti 2 semaines... J'aurais dû partir 2 mois.
Oui, notamment en France, non?
Non, je suis parti au Costa Rica pendant. Je suis parti au Costa Rica.
Moi, je t'ai vu juste après. Je me souviens parce que
ah ouais, je
me souviens que tu nous racontais déjà ce parc-là tout de suite. Moi, j'ai été halluciné parce que t'étais encore. Tu me parlais d'un endroit à Union Square. Donc là, on est arrivé sur ton business actuel.
Et voilà.
L'un de tes business actuels, d'ailleurs.
Exactement.
Sans pause, quoi. C'est de la folie. Moi, je suis vraiment. Alors, je te remercie de nous raconter ça comme ça, sans filtre, parce que c'est. Je trouve ça hyper. Je l'avais pas eu le tout ce détail, moi, part.
Voilà,
donc, je suis ravi. Et puis, on l'a en public, donc c'est bien. Et si t'as une chose que t'as tirée dans tout ça, une ou deux ou trois, mais c'est quoi la leçon de cette histoire de Tootsie?
Écoute, il y a beaucoup de leçons qui sont sorties de Tootsie. C'est. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons de Tootsie qui vont aussi porter ses fruits dans les mois qui viennent, justement, dans la mesure où je suis en train de monter une autre boîte là en ce moment.
Ouais.
Que Spark Labs, on va parler de ce que je fais aujourd'hui, mais Spark Labs, c'est un business que j'ai créé dans la bonne humeur, parce que j'avais envie de faire autre chose que d'avoir une start-up. Donc Spark Labs, pour moi, c'est pas vraiment une start-up.
Ouais.
Alors que là, je remonte vraiment une start-up. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais pouvoir commencer à exploiter de par mon expérience de Tootsie sur la nouvelle boîte. Mais pas mal de leçons sur travailler avec des amis.
Ouais.
Pas forcément facile. Mm-hmm. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions à avoir quand tu travailles avec des gens que tu connais bien.
Ouais.
Avant de se lancer dans des aventures pareilles. Et puis savoir bien s'associer. Et puis savoir bien s'associer avec ses investisseurs, évidemment. Là, ça a été une énorme leçon.
Tes investisseurs, ils sont connus pour ça? Ou c'est juste, ils ont. Enfin, c'est quoi leur trip? Ils ont.
Écoute, les investisseurs. Non, je pense que. Il y a effectivement des investisseurs qui ont des stratégies d'investissement très spécifiques, qui ont des stratégies de management très spécifique. Les investisseurs qui étaient dans Tootsie ne s'entendaient même pas eux-mêmes les uns avec les autres parce que justement ils avaient pas les mêmes opinions.
Ouais, c'est un espèce d'énorme naufrage, quoi.
Et c'est marrant parce que il y a autant de différences entre un investisseur français et un investisseur américain qu'un investisseur East Coast et un investisseur West Coast. Tu vois, c'est marrant. Mmh. Mais les investisseurs West Coast avec lesquels nous travaillons chez Tootsie, on parlait produits, on parlait acquisition d'utilisateurs, on parlait social, on parlait véritablement des enjeux et des modèles économiques de la boîte. Alors que les investisseurs East Coast, anciens banquiers de Wall Street, recyclés en VC, étaient la tête dans la spreadsheet et ils en avaient rien à foutre. À la limite, ils comprenaient même pas ce qu'on faisait.
D'accord.
Donc on a appris pas mal là-dessus. Pas mal de choses sur la manière dont les investisseurs ont d'investir dans les boîtes.
Et c'est finalement quand même ton concurrent qui vous a cramé, enfin avec des du coup de, sous
alors
sous,
notre concurrent fond... nous a ultra cramé puisqu'ils sont passés en plus public à une valo de 2,5 milliards.
D'accord. Ils existent encore ?
Ils existent encore. Ils viennent de se faire racheter une autre fois 2,5 milliards par un géant américain qui s'appelle QVC. D'accord. Donc ils ont pris 2,5 milliards deux fois.
Pas mal.
Ouais, pas mal.
Ah ouais, vous étiez pas loin dans une.
Ah ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux?
Et donc là, tu es à New York, tu te dis, bon, je lance autre chose. Comment tu. Alors, Spark Labs, on est ici à côté d'Union Square, dans ton premier bureau à partager. Je te disais tout à l'heure, j'ai rencontré Clément Altresco, qui est le patron de bureau à partager. Toi, tu étais là-dessus très très tôt aussi, hein, parce que c'était avant les grosses modes WeWork et tout ça. Enfin, c'était peut-être déjà lancé.
Enfin, WeWork existait déjà. Moi, je lance ça de manière un petit peu artisanale, attention. C'est-à-dire que je suis pas en train de me dire, je vais monter un business de coworking, etc. Je sors de l'histoire de Tootsie.
Ouais.
Et je me dis, j'ai besoin de faire autre chose et de m'occuper l'esprit. Et je tombe sur un copain. Un vieux copain qui lui était photographe et qui a donc cet espace à Union Square situé hyper stratégiquement au plein milieu de la Silicon Valley, en plein milieu de Manhattan. Et donc mon pote Philippe, qui est donc photographe de mode, me dit, écoute, j'ai des problèmes de santé, il va falloir que je me débarrasse de mon studio. Le studio photo est magnifique, c'est un des plus beaux studios photo que j'ai vu ici sur Manhattan. Et je lui dis, écoute, c'est trop bête. En plus, il avait un deal hyper intéressant en termes de loyer. Et donc je lui dis, écoute, tu sais quoi, je reprends ton lease et je fais un espace de travail pour start-up. Et c'est comme ça que ça commence en fait, sur une opportunité.
Mm-hmm.
Un bon pote, j'avais vraiment envie de lui filer un coup de pouce et moi j'avais besoin de m'occuper à faire quelque chose et donc du coup je reprends son espace, je vais avec quelques potes repeindre tout le truc et installer des bureaux à droite à gauche et I'm open for business et donc je commence à être très rapidement investi par la diaspora d'entrepreneurs tech européens, principalement français, mais pas que.
Mm-hmm.
Et Spark Lab va devenir un peu le repère de tous les entrepreneurs français et européens qui montent des boîtes de tech ici ou qui viennent se développer de mais Paris, de Londres, de Berlin, etc., sur New York, de manière à s'emparer du marché américain. Et comme j'avais, moi, à l'époque, à San Francisco, j'avais fait ça plusieurs fois, je lance une sorte de coworking, du coup, plus avec pas mal d'événements, avec un support légal, un support comptable, un support pour les visas, etc., avec des partenaires très spécifiques.
Ça, c'est hyper important, oui.
Et voilà. Et donc, du coup, c'est un peu la solution clé en main pour les entrepreneurs. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça part tout de suite.
Oui, c'est-à-dire
que ça prend tout de suite.
Toi, tu te colles ici, tu prends ton bureau et tout de suite...
J'appelle deux, trois potes, qui appellent des potes, et tout le monde avait envie de se retrouver, en fait. Tout le monde avait envie de se retrouver en tant qu'entrepreneur européen qui avait les mêmes challenges, qui avait les mêmes problèmes, qui voulait apprendre les mêmes choses. Donc, je commence à organiser des workshops, etc. Je fais venir des VC US qui sont intéressés d'investir dans des boîtes européennes qui ont des technologies intéressantes et qui viennent se développer sur le marché américain. Et donc, tout ça va très, très vite. Et donc, de fil en aiguille, j'ouvre un deuxième espace qui fait 5 fois la taille du premier. Et donc, aujourd'hui, j'ai peut-être 300 personnes qui sont entre ces deux espaces, qui sont abrités sous le toit de Spark Labs et qui cohabitent ensemble, qui s'entraident, etc.
Et c'est quoi le loyer en gros? C'est quoi le modèle? Tu fais payer
C'est un modèle économique très similaire à n'importe quel coworking space.
Ouais.
C'est un modèle d'abonnement.
Ouais.
Mais le petit truc en plus, c'est que pour le même prix qu'un desk à WeWork ou ailleurs, t'as toute cette partie support et toute cette partie programmation, contenu, etc., qui n'existe pas chez tous les autres. Ce qui nous a permis aujourd'hui de survivre, alors que WeWork a levé 6 milliards et a tué peut-être la moitié ou 60% des espaces de coworking à New York, parce que WeWork a 35 espaces juste à Manhattan. Quand ils ont tué tout le monde, nous, on a réussi non seulement à rester en vie, mais à rester à 80-90% de remplissage depuis 4 ans, sans véritablement sentir trop de problèmes, si ce n'est que les coûts d'acquisition sur la partie marketing online a fortement augmenté parce qu'ils arrosent comme des malades toute la partie paid search et Facebook Ads, etc. Donc là,
tu dois faire de l'acquisition pour les nouveaux avant de remplir. Alors, une fois que c'est rempli, c'est plus facile. Non,
oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça que tous les autres sont morts, si tu veux. Tous ceux qui sont morts parce que WeWork les a tués en faisant, encore une fois, une lock-out stratégie sur la partie acquisition d'utilisateurs. les seuls coworking qui aujourd'hui ont réussi à survivre dans cet écosystème, c'est ceux qui ont un marché de niche très spécifique, comme nous. Mais t'as aussi un coworking spécialisé en fashion, t'as aussi un coworking spécialisé en biotech.
Oui, il y a un super article récent dans le Wall Street Journal.
Exactement, on était featured là-dedans. Ouais. Et en fait, tous ceux qui sont vraiment ciblés sur un marché de niche ont réussi à retirer leur épingle du jeu et à rester très compétitifs.
D'accord. Et du coup, juste pour bien comprendre et faire un petit peu l'article aussi, mais pour un auditeur là européen, français ou francophone en tout cas, je lui souhaite, sinon il ne devrait pas comprendre grand-chose.
Ouais.
Tu m'avais expliqué plusieurs options. Je peux prendre juste une boîte postale au début ou quelque chose comme ça, et puis plusieurs.
Ouais, ouais.
Et en fait, toi, tu vas m'aider potentiellement, alors pas à créer mon business ici, enfin si, peut-être à le créer administrativement, mais pas à générer du business, mais en tout cas, donc je peux avoir un bureau, une boîte postale, puis une société, puis un visa, puis c'est ça.
Exactement. Donc on t'aide un petit peu sur tout le cheminement, et on peut même t'aider à trouver des clients, on peut même t'aider à t'introduire à des fonds d'investissement et à t'aider à loquer ton financement si jamais t'as besoin de faire un série A ou un série B. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la plupart des boîtes qui viennent nous voir ici, c'est des boîtes qui ont déjà un modèle économique validé sur l'Europe. Donc, je reviens à ce dont tu parlais tout à l'heure. Tu parlais de boîtes qui veulent tout de suite venir aux États-Unis. Nous, des boîtes qui veulent tout de suite venir aux États-Unis, on leur conseille pas, en fait. Mmh. On leur conseille pas vraiment de faire ça. C'est très, très, très casse-gueule. À moins d'être bien financé. Et des boîtes qui commencent en étant très financées, il y en a très peu. Donc la plupart des boîtes qui sont ici, c'est des boîtes qui ont déjà fait un gros seed ou un série A, qui ont déjà un modèle économique validé à la maison,
oui,
et qui, fort d'une levée de fonds avec un minimum de 500K ou 700K, viennent se déployer sur le marché américain et viennent chez nous de manière à réduire le risque. Parce que nous, on est là pour réduire le risque. Mais on n'est pas là pour... aider deux gars dans un garage à monter une application à lancer sur le marché américain. Il y a très très peu de gens comme ça de toute manière qui y arrivent, et donc nous, notre modèle, il est beaucoup plus efficace sur des entrepreneurs qui ont déjà une très bonne perspective de quels sont les tenants et les aboutissants de leur business, connaissent bien leur modèle économique, et ces gens-là, on peut vraiment les aider.
C'est dur de se lancer aux États-Unis ?
Bah, ça peut être très dur de se lancer aux États-Unis, ça dépend ce que tu fais après.
C'est quoi tes barrières, je veux dire ? Alors, est-ce que si on veut généraliser un petit peu, est-ce qu'il y en a ? Je sais pas.
Oui, oui, enfin, c'est difficile de généraliser parce que tout le monde va te dire qu'ils ont quand même un produit très différent, mais bon, effectivement, on va dire que les États-Unis, déjà, les ressources coûtent très cher. Donc, ça dépend. Tu te lances aux États-Unis en gardant ta technologie en Europe ou pas ? Parce que ça change tout. Déjà, rien que ça.
Ouais, un ingénieur ici, ça vaut.
Ça change absolument tout. Il y a un développeur ici, c'est 150 000 dollars par an, minimum.
Beau salaire.
Ensuite, le gros problème, c'est que si quelqu'un lui offre 170 000, il se casse. Donc, ça coûte très cher et tu n'as aucune loyauté. Donc, il suffit de très, très peu de choses pour faire capoter ton projet. C'est pour ça que moi, à Spark Labs, toutes les boîtes qui sont ici, je leur ai toutes conseillé de garder leur techos en France ou en Europe. Grosse connerie de vouloir engager du monde ici en techos. Il faut focus exclusivement sur la partie business et vente.
Ou alors il faut leur donner autre chose, c'est-à-dire travailler à domicile, de chez eux. Enfin, c'est les stratégies de
télétravail.
De 27 Signal, de Basecamp ou de choses comme ça, qui recrutent des gens dans tous les États-Unis, mais pas à San Francisco, pas à New York.
Pas à New York, les loyers sont trop chers. Effectivement, mais attention, il commence à y avoir de la concurrence partout maintenant. Ça, c'était quelque chose qui était peut-être vrai il y a 5 ans, mais aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle ville américaine, il y a des startups partout, ils veulent tout, et il n'y a pas assez de développeurs nulle part. Donc il y a vraiment une course au talent technologique, et c'est une des raisons pour lesquelles, comme je te disais, nous on préfère aider des boîtes qui sont vraiment focus sur la partie business ici. Donc il y a la partie effectivement main d'œuvre qui est très très chère, et puis c'est un marché qui peut très très vite tarte-bider sur la partie financement. Tu te rends compte à plusieurs boîtes qui sont venues ici, qui n'avaient pas fait leur travail en avant, qui se sont rendues compte que non seulement elles avaient des concurrents qu'elles n'avaient pas identifiés, mais elles ne s'étaient pas du tout rendues compte que ces concurrents étaient déjà extrêmement bien financés.
Oui.
Et ça, ça peut être très, très compliqué derrière.
Mm.
Très, très compliqué. Tout dépend de la tête de ton marché, mais...
Oui, si tu débarques avec tes
boîtes, avec ton million. Si tu débarques 3, 4, 5 ou 10 fois plus que toi sur un marché qui ne peut pas supporter X number de players, t'es mal. Mm. Très, très mal.
Mm. Ok. Bon, bah écoute, c'est hyper intéressant. Et pourquoi Spark Labs n'est que... Enfin, c'est déjà très bien, ouais, là, 300 ouais. places, mais que à New York?
Alors, écoute, Spark Labs n'est que à New York parce que je pense qu'on a raté quelque part le train de vouloir lever beaucoup d'argent pour ouvrir plein d'espaces partout.
Mmh.
WeWork s'est lancé sur le marché de manière très, très agressive.
Que tu sois à San Francisco, viens, par exemple.
Oui, ça aurait pu. Oui, ça pourrait toujours avoir une logique parce qu'il va y avoir de plus en plus de boîtes qui viennent se développer sur le marché américain.
Oui.
Parce que il y a de plus en plus d'engouement de la part de pas mal de pays d'avoir une présence ici. Donc oui, ça pourrait avoir du sens, mais moi en fait, je suis déjà en train de monter autre chose qui pour moi a plus de sens.
D'accord.
Donc là, je suis en train de lancer un nouveau projet.
Et donc tu lèves le pied sur Spark Labs, quelqu'un le
donc
gère
je
pour
lève
toi le,
là, j'ai effectivement un manager qui gère Spark Labs.
Qui est rentable, qui marche bien.
Voilà, Spark Labs, c'est rentable, ça marche, c'est un business qui marche plutôt bien, c'est un multimillion dollar business qui est profitable, etc. Ce qui est bien, c'est que, tu vois, c'est une boîte qui a 4 ans, que j'ai créée avec très très peu de financement, où j'ai 100% du contrôle. Je fais un petit peu ce que je veux, je suis chez moi. Et puis maintenant, j'ai un manager qui va gérer cette boîte pendant que je crée la prochaine. Donc, c'est pas une mauvaise configuration.
Ouais.
Si tu veux.
Oui, c'est une petite rente, quoi.
Oui, exactement. Voilà, c'est très très bien. Et puis en même temps, ça permet à la nouvelle boîte d'être basée dans Spark Labs aussi. Donc
d'accord.
C'est sympa. Okay. On reste dans cette ambiance très 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 sympathique et gros sentiment de camaraderie ici. Tu vas voir ce soir, puisqu'il y a un événement auquel tu vas assister. On a un gros drink ce soir.
Précise qu'il est il est 6h moins le quart, 18h, 17h45, que j'ai pris l'avion plus tôt dans la journée, que je commence à être éclaté, que je sens le drink qui se profile derrière.
C'est ça. On va vite t'en mettre en forme.
Alors raconte-nous ce nouveau projet. C'est secret, pas secret.
C'est plus secret. C'est plus secret. On va annoncer là qu'on a fait notre première levée de fonds. On est en train de lancer en fait une plateforme de flexibilité de travail.
Je précise que tu peux dire des choses et que je peux le sortir dans 2 semaines après tu peux balancer des choses. Je garderai la confidentialité le temps nécessaire s'il faut.
Donc on est en train de créer un nouveau business qui s'appelle Upflex.
Upflex.
Voilà.
D'accord.
Qui est une plateforme de flexibilité de travail pour les employés.
D'accord.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, on s'est rendu compte on a fait pas mal de recherches, en fait, en se disant qu'il y avait quand même sûrement pas mal d'opportunités dans le secteur du coworking. Et, il y a aujourd'hui 15 000 coworking spaces dans le monde. Je sais pas si tu savais ça, il y a 15 000 coworking spaces. C'est quand même dingue. WeWork en a 200. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent.
Nous, on
dans le reste du monde. Pardon ?
Mais nous, on en a un petit à notre...
Vous en
êtes
partie du compte.
Pas de rimons.
On vous a compté.
Exactement.
Et donc, il y a 5 ans, il y en avait 600. Aujourd'hui, il y en a 15 000. Et dans les 5 prochaines années, il y en a 45 000 de prévus. Donc, il y a une grosse croissance dans le secteur du coworking. Mais à côté de ça, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les opérateurs de ces espaces sont des bons managers, mais des très mauvais marketeurs.
OK.
Pour la plupart. Et il y a
ce qui est embêtant parce que bien manager un endroit qui est vide, ça sert pas à grand chose.
C'est la guerre, c'est comme un hôtel. Tu sais, si t'as pas un taux de remplissage important, tu peux vite fermer ton business.
Sachant que moi j'ai découvert ce business, excuse-moi, mais donc on a eu l'opportunité assez incroyable d'acheter un bel espace dans Paris.
Ah oui.
Et dans le 17e. Et on a acheté, parce qu'on avait déménagé 4 fois en 4 ans chez Cosa Vostra, on a acheté un truc beaucoup plus grand que ce dont on avait besoin. Et tu fais quand même un gros pari, parce que ça coûte un peu d'argent, et voilà. Et à un moment où tu flippes un peu. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que tu as quand même une courbe quand tu sais bien vendre le truc. où il y a quelques mois où tu flippes, et à un moment, t'as tout le monde qui te dit oui, et à ce moment-là, t'as plus de place, et tu te dis, j'aurais dû prendre le double, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et on n'aurait pas pu, en l'occurrence. Mais là, génial, aujourd'hui, j'en rêverais, quoi.
Ouais, et puis c'est génial, puisque au partir du moment où t'as commencé à remplir ton truc, comme c'est très très récurrent comme business, ouais. Ça crée une belle dynamique. Donc ce que je te disais, c'est que malgré le fait que les propriétaires soient des bons opérateurs,
ouais.
La plupart sont pas forcément des bons marketeurs, ce qui est pas ton cas avec Cosa Vostra, puisque
c'est une partie de notre métier, mais quand même, en effet, c'est ce que tu dis, hein, il y a bureau à partager. Alors nous, on a utilisé la plateforme de bureau à partager,
d'accord,
pour louer, entre autres. D'ailleurs, on a loué aussi pas mal en direct par notre réseau, par LinkedIn, ouais. Par plein de choses. Mais en effet, quand t'as WeWork qui est là, qui ouvre espace sur espace sur espace, comme tu le dis, si tu essayes de faire un peu d'AdWords ou de et ben voilà fini. Et puis t'as quand même, ils ont alors ils sont plus chers que ce qu'on propose nous, ouais. Mais ils ont des espaces qui sont fantastiques, ah, nous on a fait un très beau lieu aussi, hein, mais la concurrence en termes de design, de choses comme ça, c'est
dur.
Ouais, c'est dur,
ouais, bien sûr, absolument. Mais du coup, ce que je te disais, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que il y a quand même comment dire, en moyenne 30 à 40% d'inventaire invendu dans tous les coworking spaces dans le monde. Donc, évidemment, ça va peut-être te sembler bizarre parce que toi, t'as peut-être un coworking space qui est très bien rempli, le mien aussi, mais toi, t'es bien en plein milieu de Paris, moi, je suis en plein milieu de New York. On représente peut-être 5 à 10% du marché, mais 90% du marché, 90% de ces 15 000 coworking spaces ne sont pas en plein milieu de Paris, de New York ou de Londres.
Ouais.
Ils ont des gros inventaires d'invendus.
Oui, quand t'es à la Garenne Colombe ou à Ber-sur-Mer, j'imagine que c'est pas aussi simple, quoi. When you work.
Alors, du coup, ça, c'est la première analyse qu'on a faite. La deuxième analyse qu'on a faite, c'est que il y avait un besoin du côté des clients corporate.
Ouais.
De flexibilité de travail pour leurs employés.
Oui.
Les moyennes et grandes entreprises ont de plus en plus de problèmes d'acquisition de talents, de rétention de talents, dans la mesure où la nouvelle génération de millennials veulent une expérience de travail qui ne ressemble pas du tout à ce que les employeurs actuels peuvent proposer.
Oui, en gros, je reformule, mais le rêve de d'un employé maintenant, il n'est pas de se dire, je vais faire 1h15 de commuting pour aller
c'est fini.
Chez Procter à l'autre bout de la ville, quoi.
Exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, ces jeunes talents privilégie beaucoup plus le fait de travailler pour une boîte flexible, une jeune start-up, ou devenir freelancer, monter leur boîte, etc. Ça devient un gros problème pour les employeurs qui n'arrivent plus à staffer. Aujourd'hui, c'est un phénomène global.
Oui.
Donc nous, l'idée, en fait, c'est de matcher, si tu veux, les espaces de travail qui, eux, d'un côté, ont beaucoup d'inventaire à monétiser, avec des employeurs qui ont beaucoup d'employés qui veulent pouvoir ne pas avoir à passer 1h30 dans le métro tous les matins et tous les soirs. Et au lieu de ça, pouvoir travailler dans un environnement de travail, par contre, qui est productif, qui est enclin à continuer à bosser et pas être à la maison à rien foutre. Puisque aujourd'hui, toutes les recherches RH, prouvent que 80% des personnes travaillant de chez elles ne seront pas effectives et ne seront pas productives. Et ça, les employeurs le savent. Donc, il y a besoin d'une solution qui permet de pouvoir déplacer les employés du lieu de travail tous les jours parce qu'ils ne veulent plus y aller et de les faire bosser d'un endroit qui les rend productifs, mais qui leur permet tout de même d'améliorer leur qualité de vie et d'être à 5 ou 10 minutes de la maison.
Donc tu te mets entre des grandes entreprises et des coworking spaces.
Exactement.
Quoi. Qui sont tous les deux tes clients, qui te payent tous les deux?
Bah, non, on est en une sorte de yield management pour les espaces. Donc on aide les espaces à monétiser leur inventaire. Donc nous, on achète de l'inventaire aux espaces et on le monétise en le revendant aux grandes entreprises.
Et donc là, vous êtes plusieurs, tu montes ça avec qui?
J'ai monté ça avec, j'ai une cofondatrice.
Oui.
Qui s'appelle Ginger et qui est Dilawal, qui était depuis 15 ans dans pas mal de startups ici et qui a monté et revendu 2-3 trucs, qui est notre, ma chief product officer, qui est mon associé, qui est une femme très talentueuse.
D'accord.
Et
vous avez levé,
on a une petite équipe. Comment?
Et vous avez levé donc.
Et là, on vient de closer un premier tour de table qui a un seed round de $500,000.
C'est ça qui est bon aux États-Unis, c'est que le petit seed round, c'est $500,000, $500,000. D'accord.
Voilà, donc là, on a de quoi amorcer. Ça fait déjà plusieurs mois que moi, je finance le projet. Et donc là, du coup, on a fait rentrer quelques fonds de San Francisco et en Europe, d'ailleurs. Et donc là, on va lancer le produit dans 60 jours.
60 jours.
Mm-hmm.
Bravo.
Ouais, c'est cool.
Croise les doigts.
Ouais, c'est cool.
Une super nouvelle aventure.
Très content.
Écoute, et du coup, comment tu jongles après aujourd'hui sur tes boulots là-dessus? T'es principalement là-dessus maintenant?
Bah oui, maintenant, ça y est, je suis vraiment focus, on va dire, aller à 95% sur le nouveau, sur Reflex.
OK.
Dans la mesure aujourd'hui, j'ai un manager, une petite équipe sur Spark Labs qui
Reflex, c'est le nom définitif?
Ouais.
T'as acheté le .com?
On a le .com, le .co, le .io.
D'accord. Le .com était dispo?
Ouais.
Ouais, pas mal. Et d'accord. Et alors, raconte-nous un peu. C'est quoi tes petits secrets? C'est quoi ta magic sauce? Je sais pas. Est-ce que t'as des applis que tu utilises un peu plus que d'autres? Est-ce que t'as du sport, de la méditation? Je peux raconte.
Bah, j'imagine que tout le monde a son petit truc. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de faire beaucoup de sport de manière à rester.
Esthète.
Rester en forme aussi bien dans mon corps que dans ma tête. J'ai vachement besoin de me dépenser. Donc,
okay.
Donc du coup, ouais, j'essaie de passer pas mal de temps à la capoeira, qui est un peu mon sport que je fais deux fois par semaine depuis plusieurs années.
Sympa.
Et puis, écoute, j'ai une petite fille de 13 mois, comme tu le sais. Donc ça, c'est mon petit. C'est mon petit échappatoire avec ma femme, c'est un vrai bonheur. Mais ouais, ça c'est extraordinaire. Mais j'ai besoin d'océan moi. Donc c'est pour ça que je vis à New York aujourd'hui.
Ouais.
Après San Francisco, j'ai besoin de passer pas mal de temps dans l'eau.
Ok.
Donc du coup,
tu surfes toujours?
Donc je surfe toujours. Ouais. Je
ici on surfe où?
Et bah oui, ici tu surfes à Long Island.
D'accord.
Tu surfes à Long Island à 1h30 ou 2h d'ici. Tu prends une voiture et puis
tu mets ta combi
et tu vas surfer. C'est extraordinaire. Il y a des vagues extraordinaires à New York.
D'accord.
Peut-être pas aussi bien que San Francisco, mais il y a des vagues extraordinaires. Donc je passe pas mal de temps. Bah, là, c'est plus la saison, malheureusement, il fait trop froid. Mais
ouais.
Du coup, c'est là qu'on part au Costa Rica, à Porto Rico, dans ce genre d'endroit pour aller chercher des vagues. Mais ça, c'est mon voilà. J'ai besoin de cet équilibre.
Okay.
J'ai trouvé cet équilibre à San Francisco et ça fait 15 ans maintenant que j'ai cet équilibre régulier qui me permet de pouvoir rester sain. Parce qu'on a quand même des rythmes assez dingues. New York est une ville qui est quand même très très éprouvante.
Ouais, ça pulse.
Très éprouvante.
Mais
ça pulse.
C'est tellement cool. Enfin, je veux dire, moi j'ai été.
Une énergie incroyable, mais il y a le revers de cette énergie extraordinaire.
J'ai vécu ici il y a bien longtemps, mais revenir ici tout à l'heure, passer dans les rues et tout, ça m'a fait un truc, hein. Mais écoute, d'accord. Et si t'avais un truc à dire à Christophe, au Christophe qui sort là de BNP, là, qui arrive à San Francisco, qui sort de sa petite expérience, qui a fait ses 3 mois, tu lui dirais quoi? Si t'avais l'occasion de te parler là 10 minutes.
Oh là là, oh la question.
Un petit conseil, un truc.
Je sais pas, écoute, je sais pas ce que je me dirais parce que je pense que j'ai toujours écouté mon instinct et ça a été une bonne chose comme une mauvaise chose parce que ça m'a fait prendre des risques incommensurables sur pas mal de choses. Maintenant que t'as entendu mon parcours.
Mauvaise chose, Totti, c'était une mauvaise chose?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles où j'ai continué à prendre énormément de risques. Je me rends compte que j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques.
Après
je me rends compte après coup que j'ai pris plein de risques.
Oui.
Ce qui m'a apporté une expérience extraordinaire et j'adore.
Ce qui n'est pas forcément le risque chez l'entrepreneur. Hein, enfin, on essaye quand même limiter les risques. Et d'ailleurs, avec Spark Labs, t'as beaucoup limité les risques.
Bah, j'ai vachement, disons que j'ai effectivement scaled down la partie risque quand j'ai monté Spark Labs, parce que c'est un business qui pour le coup ne scale pas autant.
Ouais.
Mais
scale, coup, donc scaler, c'est pouvoir grossir d'un coup très fort. On peut pas passer de 1 million à 30 millions
voilà,
en un an.
C'est ça, exactement. Mais ça m'a permis de créer un business, voilà, qui est très, très stable.
T'es passé d'un extrême à l'autre, en
fait. Ouais, complètement.
D'un truc où t'as 100% et où ça tourne tout seul. Enfin, tout seul, j'exagère, mais où ça tourne. Non, pas tout seul, surtout pas. Mais
je savais pas mesurer les risques, en fait. Si je devais me donner un conseil, ce serait de mesurer les risques mieux et d'évaluer les choses plus avant de foncer la tête en avance, parce que j'ai toujours été jusqu'à justement Spark Labs, j'étais quand même pas mal un peu foufou, tête en avant, on y va, on réfléchit pas.
Mais c'est quand même ce qu'on cherche souvent dans les start-upers.
Ouais, bien sûr, mais c'était un manque d'expérience, hein. C'était un manque d'expérience, bien évidemment. Mais c'est quelque chose que je referais peut-être un petit peu différemment. J'essaierais d'être un peu plus analytique dans mon approche les deux premières fois. Surtout sur pas mal de choses. C'est des choses, c'est marrant parce que c'est des choses qu'on s'est dites avec Guillaume aussi. On a fait confiance à beaucoup de gens, les yeux un peu fermés parce qu'on était peut-être un peu trop idéalistes, lui et moi. Et si t'as l'occasion de le revoir et de l'interviewer, tu verras que c'est un grand idéaliste. Et je pense que c'est ça qui nous a beaucoup rapprochés. Mais faut faire effectivement attention. Et puis, je pense qu'en France comme aux États-Unis,
confiance aussi.
Mais oui, c'est bien.
Ouais, faut pas être trop parano non plus. Écoute, merci pour tout ça parce que c'est une super expérience que tu nous as partagée. Je suis vraiment ravi. Je te dis merde pour Upflex et puis on te suit un peu partout sur quoi t'es le plus actif toi, LinkedIn, Twitter, Facebook, où est-ce qu'on t'ajoute?
Je suis le plus actif sur Instagram. Je suis le plus actif sur Facebook.
OK, on peut t'ajouter sur Facebook, te suivre, t'as un profil un peu public.
Ouais,
OK.
Sûr, ouais.
OK.
Ouais, ouais.
Bon bah cool. Et ben Christophe Garnier.
Merci Mathieu.
Spark Labs,
c'est le plaisir.
On est ravis. Upflex, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup Mathieu.
Salut.
À plus.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone. Et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.